7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Point de suspension, guillemets, parenthèses, tirets, crochets. On va continuer à explorer les subtilités de la ponctuation avec l'enseignante Marie-Christine Aubin. La comédienne Héloïse Auria nous racontera La course du caméléon de Jean-Jacques Vdida, publié dans la collection Contes d'Afrique aux éditions Didier Jeunesse. Les devoirs de vacances, plaisir ou corvée, sont-ils à conseiller ou les enfants peuvent-ils s'en passer ? La psychopédagogue Joëlle Alarcon nous dira si elle est pour ou contre. Une émission réalisée avec une équipe en télétravail, Cécile Lavolo, Sigrid Azeroual, Romain Dubrac et en studio, Nicolas Benita et moi-même. Nous attendons vos réactions, vos questions, vos messages audio et écrits sur WhatsApp au 33 84 22 71 71. Les enfants, on compte sur vous.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Bonjour les voisins et les voisines. J'ai vraiment adoré le cours sur la ponctuation. La ponctuation, ça nous aide vraiment à donner du sens à ce que l'on écrit. Vraiment, c'était génial. Grâce à cette cours, je saurai comment placer mes points, mes virgules, mes points et virgules. C'est vraiment fantastique. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur.
Merci Marie-Christine. J'espère qu'on continuera avec la ponctuation. Lucas, Kinshasa, 7 ans.
J'ai bien apprécié l'expérience d'aujourd'hui sur l'eau et le sel. J'ai appris que l'eau était solvant et le sel est soluté.
Nous avons reçu d'autres messages d'auditeurs. Gandega de Paris nous écrit « Je suis un auditeur assidu de RFI depuis plus de 4 décennies. J'exulte de joie quand je vois toutes les mutations exceptionnelles de votre station. Merci infiniment pour ce que vous faites en ces temps particulièrement difficiles pour aider les enfants dans le suivi de leur apprentissage. Bravo à vous, votre équipe et aux enseignants. Bravo à vos auditeurs en herbe qui sont très investis. » Lassana, nous savons tous qu'il faut être très attentif pour apprendre avec la radio. Ça demande plus de concentration. On aura bien appris à être attentif et à bien se concentrer sur les discours. Et ça nous aura fait prendre conscience que les enseignants méritent tous un grand respect. Moussa de N'Djamena, j'ai arrêté l'école en 6e et je suis analphabète. Mais grâce à l'école à la radio, j'ai décidé de reprendre un enseignement général.
7 milliards de voisins. Nous avons maintenant une LUCAM. Voisins, voisines. On est ensemble et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Chantal.
Alors aujourd'hui, vous allez donc continuer votre leçon sur la ponctuation.
Eh oui, parce qu'il y en a tellement de signes, c'est un petit peu compliqué, mais nous allons tous y arriver.
Alors que faut-il comme matériel, Marie-Christine ?
Aujourd'hui, la feuille de papier de lundi et puis un crayon.
Alors, avant la leçon du jour, Marie-Christine, on va revenir sur la leçon de lundi que nous avions dû écourter à cause de problèmes de ligne téléphonique. John de Bukavu demande « Comment savoir quand mettre une virgule et un point ?»
Eh bien, la virgule, elle sépare des mots à l'intérieur d'une phrase et le point vient obligatoirement en fin de phrase. Je rappelle qu'une phrase commence par une majuscule au premier mot de la phrase et se termine obligatoirement par un point. Alors ça peut être effectivement un point d'exclamation ou un point d'interrogation ou des points de suspension comme nous allons le voir tout à l'heure.
Alors Emmanuel,
comme nous l'avons déjà
vu. Oui, alors Emmanuel de Marois demande comment repérer les virgules et les points virgules dans une dictée.
Alors la virgule, c'est une petite respiration. Donc, normalement, on peut la reconnaître parce que c'est juste une séparation entre des mots de même nature ou des phrases de même nature. Le point virgule est composé de deux petites phrases qui chacune contiennent un verbe. Ce qui n'est pas le cas quand on sépare des mots. Mais on peut séparer aussi des verbes par une virgule, hein. Alors après, c'est le sens de la phrase qui permet de vraiment distinguer si c'est la virgule ou le point-virgule.
Alors, votre leçon de lundi, Marie-Christine, a eu vraiment beaucoup de succès auprès de nos auditeurs. Sadna de Nouakchott nous écrit « Merci Marie-Christine pour la leçon sur la ponctuation, c'était formidable ». Évariste de Kinshasa, la leçon de Marie-Christine était drôle, mais surtout très intéressante et très agréable à écouter. Chris de Curpip à l'île Maurice, qui est un grand fan de l'émission, « Marie-Christine était drôle comme d'habitude, mais extrêmement efficace dans ses explications ludiques et j'en suis vraiment émerveillée.
Sept milliards de voisins.
L'école à la radio.
Alors Marie-Christine, on va commencer la leçon d'aujourd'hui par les points de suspension. Alors les enfants, j'espère que vous êtes bien concentrés. Vous allez poser votre index au-dessus du sourcil gauche, puis à la racine du nez, c'est-à-dire entre vos deux sourcils, et enfin au-dessus du sourcil droit. Vous avez bien compris, on recommence. Vous posez votre index au-dessus du sourcil gauche, puis à la racine du nez, enfin au-dessus du sourcil droit. Vous venez de dessiner les trois points de suspension sur votre visage.
Les points de suspension indiquent que la pensée a été interrompue, que l'idée reste en l'air, que celui qui parle a des difficultés à s'exprimer parce qu'il a, il hésite, parce qu'il a peur, parce qu'il est timide, pour toutes sortes de, d'autres raisons. Parce que la personne dit un mot grossier ou jure. En ce cas, on écrit la première lettre de ce mot que l'on fait suivre des points de suspension. Parce que, bien évidemment, il est interdit de prononcer des mots grossiers ou de jurer. On l'utilise aussi quand la personne cite une partie seulement d'un texte écrit par un auteur. Celui qui parle fait une longue pause sans baisser la voix.
Alors, on va prendre des exemples. Bintou ouvre le cadeau. Il y a trois points de suspension.
Trois points de suspension. À vous de deviner, les enfants.
Ce qu'il y a dans le cadeau.
Deuxième... Donc c'est pour ça, c'est une surprise.
Voilà. Deuxième exemple, avec le fonio, on peut ajouter du lait caillé, de la viande, des légumes. Trois points de suspension.
L'énumération est incomplète. Comme c'est vous qui cuisinez ce plat, qu'on ne peut pas cuisiner bien évidemment en France, parce que nous ne cultivons pas le fonio, je vous laisse compléter l'énumération de cette recette.
Troisième exemple, j'ai aperçu le lion tout près, raconte le chasseur, je me suis caché et à ce moment-là, trois points de suspension.
Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Le chasseur ne peut pas continuer son récit, car il revit la peur qu'il a eue.
Alors maintenant, on va faire un petit exercice, Marie-Christine.
Écrivez trois points quand vous pensez qu'ils sont écrits. J'ai eu le résultat de mon devoir. Devine ma note. J'ai eu...
On relit la phrase une deuxième fois peut-être. Hein.
J'ai eu le résultat de mon devoir. Devine ma note. J'ai eu...
Alors, deuxième phrase, cette fois c'est moi qui la lis. Dans la recette du poulet congolais, il y a du poulet, de la tomate, du beurre de cacahuète. Je la relis encore. Dans la recette du poulet congolais, il y a du poulet, de la tomate, du beurre de cacahuète. À votre tour, Marie-Christine, pour la phrase suivante.
A dit le général Cambronne.
Une nouvelle fois.
A dit le général Cambronne.
Alors, on laisse réfléchir un petit peu les enfants. Alors, les points de suspension, on va donner la correction de l'exercice.
Oui.
Donc, les points de suspension se trouvaient à la fin des deux premières phrases, après « j'ai eu » dans la première phrase et après « cacahuète » dans la deuxième.
Et il se trouvait après la lettre M du célèbre mot lancé aux Anglais par le général Pierre Cambronne sur le champ de bataille à Waterloo en Belgique. Alors forcément, comme nous sommes à la radio, nous n'allons pas dire le mot en entier, mais il est extrêmement connu, il est composé de 5 lettres.
Voilà, il commence par un M, il finit par un E, et souvent on le dit pour souhaiter bonne chance à quelqu'un. Hein
voilà, parce qu'on est très énervé, en colère.
Aussi, quand on a fait une bêtise, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, voilà. Donc, je pense que vous avez deviné, les enfants. On va poursuivre avec un autre signe de ponctuation, les deux points. Alors, les enfants, vous avez un petit creux au-dessus et au-dessous de votre bouche. Alors, vous posez votre index à ces deux endroits, donc au-dessus de la bouche et ensuite au-dessous de la bouche, vous venez de dessiner les deux points sur votre visage.
Celui qui parle fait une pause et sa voix baisse légèrement. Alors les deux points introduisent une explication.
Maître, désolé d'être en retard. Deux points. Il y avait un éléphant qui barrait la route.
Et en plus, il était gros cet éléphant. Les deux points introduisent une énumération.
Rokia possède une poupée, une dinette, un jeu de marchande.
Donc il y avait les deux points, après possède.
Voilà, et ensuite l'énumération.
Les deux points servent à citer les paroles d'une autre personne ou une citation d'un auteur. Et à ce moment-là, ces paroles sont encadrées par les guillemets.
Socrate a dit, deux points, ouvrez les guillemets, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, fermez les guillemets.
Les deux points introduisent un rapport de cause, de conséquence.
Amina, ça aurait pu être aussi Aminata, mais là c'est Amina a mangé une banane verte, deux points. Maintenant, elle a mal au ventre.
On va passer... J'espère que vous avez bien tout compris sur les deux points. Oui, maintenant nous passons aux guillemets.
Alors cette fois-ci les enfants, vous écartez le pouce et l'index de chacune des mains et vous repliez les autres doigts. Vous mettez vos deux bouches de crocodile de part et d'autre de votre visage et vous répétez uniquement ce que va dire Mamadou.
J'écoute Mamadou, il dit.
Ouvrez les guillemets. Je suis content d'écouter les émissions de l'école à la radio car je comprends maintenant à quoi servent les guillemets. Fermez les guillemets.
Donc on recommence.
Je relis. Je suis content d'écouter les émissions de l'école à la radio, car je comprends maintenant à quoi servent les guillemets. Donc c'est Mamadou qui parle, donc il fallait des guillemets avant « je » de « je suis content » et des guillemets juste après le mot « guillemets ». À quoi servent les guillemets? Fermez les guillemets.
Alors, les guillemets s'utilisent lorsque quelqu'un rapporte fidèlement les paroles d'une personne. C'est si vous avez répété en même temps que Chantal, vous avez constaté que vous avez fait une pause sans baisser la voix. Alors, les guillemets s'utilisent en grammaire pour préciser que l'on ne parle pas du sens du mot en lui-même, mais que l'on étudie la langue.
Alors, je donne un exemple. La mangue, alors entre guillemets, donc des guillemets avant la et des guillemets après mangue. La mangue, virgule, nom commun féminin, précédé de l'article défini la. Et la, entre guillemets aussi.
Attention, si on ne parle pas du mot grammatical, mais du sens qu'il a, on ne met pas de guillemets.
Et ça donne, la mangue est un fruit tropical délicieux. C'est tout.
Alors les guillemets sont utilisés aussi pour marquer l'origine étrangère d'un mot.
Par exemple, nous aimons beaucoup le mac croco. Le, ouvrez les guillemets, mac croco, fermez les guillemets.
On l'utilise aussi lorsqu'on cite un titre de livre, un titre d'émission, un titre de film. Comme tout à l'heure, lorsque Mamadou parlait, il a dit « J'aime écouter les émissions de, ouvrez les guillemets, l'école à la radio, fermez les guillemets ».
Voilà. Et il faut préciser que les guillemets ouverts sont toujours suivis d'une majuscule.
Oui. Et alors, les guillemets sont ouverts, donc ils vont avaler toute la bouche de crocodile. C'est comme une bouche de crocodile, elle va avaler tous les mots. Et à gauche, ils sont grands ouverts pour bien avaler tous les mots, et ils sont en sens inverse à la fin, parce qu'ils ont fini de croquer tous les mots.
Voilà.
Donc, il ne faut pas se tromper le sens, hein.
Absolument. Un exercice à présent sur les deux points et les guillemets, Marie-Christine.
Alors, vous n'allez pas vous tromper, hein, c'est un petit peu difficile. Donc, vous mettez deux points là où vous pensez qu'ils doivent être mis, et les guillemets, même chose, là où vous pensez qu'ils doivent être mis.
Donc, c'est une mini-dictée, hein.
Oui, écoute, on met juste les deux points, hein, comme l'autre jour, on place juste les deux points, et voilà. Le professeur m'a demandé les fournitures suivantes. Un stylo bille, un crayon, une gomme. Il m'a dit, tu dois arrêter de mordiller tous ces objets.
Alors, on relit la phrase une deuxième fois, Marie-Christine.
Le professeur m'a demandé les fournitures suivantes. Un stylo bille, un crayon, une gomme. Il m'a dit, tu dois arrêter de mordiller tous ces objets.
Alors, on laisse un petit peu les enfants réfléchir. Et on va passer à la correction. Donc, il y avait deux points après le mot « suivante », les fournitures suivantes, deux points. Et ensuite, suivait l'énumération, un stylo bille, un crayon, une gomme. Et il y avait également deux points après le verbe, après « il m'a dit ». Il m'a dit deux points, tu dois arrêter de mordiller tous ces objets.
Donc, les guillemets encadrés. Tu dois arrêter de mordiller tous ces objets puisque c'était le maître qui parlait et que c'était la phrase qu'il disait.
Voilà, donc les guillemets ouverts, tu dois arrêter de mordiller tous ces objets et ensuite guillemets fermés. On va continuer, Marie-Christine, avec les parenthèses. Alors les enfants, passez vos index sur le bord de vos oreilles et vous avez les deux parenthèses.
Alors, les parenthèses servent à ajouter des mots ou une phrase pour préciser le sens de la phrase principale en les isolant à l'intérieur de celle-ci parce qu'ils ne sont pas essentiels pour comprendre la phrase. On peut enlever ces mots à l'intérieur des parenthèses sans que le sens de la phrase principale change.
Alors, on va passer à un exemple. Le maître met toujours une cravate, entre parenthèses, bleue ou jaune. On ferme la parenthèse. Donc, ça veut dire que c'est une alternative. Soit il met une cravate bleue, soit il met une cravate jaune. Mais comme on n'a pas la réponse, donc on écrit « Le maître met toujours une cravate » et entre parenthèses, « bleue ou jaune ».
Oui, parce que ce n'est pas un détail essentiel, la couleur de la cravate. Le point essentiel, c'est qu'il met une cravate pour aller enseigner devant ses élèves.
Absolument. À vous, Marie-Christine.
Papa a tué un serpent, entre parenthèses, un boa. Donc là, je précise, parce qu'il aurait pu s'agir d'un mamba, il aurait pu s'agir d'un python, il aurait pu s'agir d'un serpent à sonnette, enfin je ne sais. Voilà, donc là, c'est précisé de quel type de serpent il s'agit.
Alors, troisième... Enfin, oui.
Oui, le point essentiel, c'est que papa a tué un serpent. C'est ça le point essentiel.
Alors, troisième exemple, la cuisine est pleine d'ustensiles, marmites, casseroles, assiettes, verres, cuillères, etc. Donc, les parenthèses, c'était avant marmite et après, etc. C'est-à-dire, donc, les parenthèses encadrent l'énumération d'ustensiles de cuisine.
Voilà, donc l'essentiel, c'est que lorsqu'on ouvre la porte de la cuisine, c'est que ce qu'on voit, ce sont tous ces ustensiles. C'est ça qui frappe l'œil d'abord.
Voilà, et le détail.
Alors après, on
voilà.
Donne les détails.
Marmite, casserole, assiette, verre, cuillère, etc. Alors, autre signe de ponctuation, Marie-Christine, les crochets. Alors, les enfants, votre index part d'un trait droit du coin de chacun de vos yeux, descend le long du visage et revient bien droit vers les commissures de vos lèvres. Vous venez de tracer les crochets sur votre visage. Je vais répéter parce que c'est un peu plus compliqué. Donc, votre index part d'un trait droit du coin de chacun de vos yeux. Il descend verticalement le long du visage et il revient bien droit vers la commissure des lèvres et vous venez de tracer des crochets.
Alors, les crochets ont la même fonction que les parenthèses. Ils sont utilisés pour préciser un pronom personnel.
Alors ça donne « il », entre crochets « Mamadou » n'est pas venu à l'école.
Voilà, parce qu'on avait parlé de Mamadou dans des phrases avant. Et donc, pour éviter de répéter Mamadou, on met « il ». Et parce que comme c'était, on avait parlé de Mamadou 3-4 phrases avant, on reprécise qu'il s'agit bien de Mamadou. Donc là, on le met entre crochets. Alors, les crochets sont utilisés pour citer une partie d'un texte d'un autre auteur.
Alors, par exemple, les jardins potagers sont source de bien-être personnel et économique. On ouvre les crochets. Il faut cultiver son jardin. Voltaire dans son roman Candide, fermer les crochets. Ils permettent aux femmes de gagner de l'argent. Donc si on lit sans les crochets, ça donne « Les jardins potagers sont source de bien-être personnel et économique. Ils permettent aux femmes de gagner de l'argent. » Et si on veut ajouter d'où est extraite cette citation, on l'inclut juste après le mot « économique ». Donc ça donne « Les jardins potagers sont source de bien-être personnel et économique. Entre crochets, il faut cultiver son jardin. » Voltaire, dans son roman Candide, fermer les crochets, ils permettent aux femmes de gagner de l'argent.
Alors, les crochets sont utilisés pour indiquer qu'on a supprimé une partie d'un texte cité quand ils encadrent des points de suspension. Je ne sais pas si les enfants vont visualiser, mais par exemple, il faut cultiver... Alors, je dis, les jardins potagers sont source de bien-être personnel. Après, j'ouvre les crochets et je mets 3 points de suspension et je referme les crochets. Parce que dans le texte que j'avais, dans la petite phrase que nous avions citée en exemple tout à l'heure, on avait dit « les jardins potagers sont source de bien-être personnel et économique ». Donc comme on n'a pas fini la citation, donc on met entre crochets, on ouvre les crochets, on met 3 points de suspension et on referme les crochets.
Voilà, et on retrouve...
Il y a eu un bout qui manque.
Oui, voilà, on retrouve souvent ça dans les articles de journaux, hein, quand on veut reprendre la citation de quelqu'un. Par exemple, imaginons un discours d'Emmanuel Macron, on ne peut pas reprendre le discours en intégralité, donc on en prend un tout petit bout, et ensuite on ouvre des crochets, et à l'intérieur on met 3 points de suspension, et on ferme les crochets. Ça veut dire que, voilà, que le président a parlé beaucoup plus longtemps, mais qu'on ne reprend pas tout ce qu'il a dit.
Mais ça, c'est important de mettre cette mention, ça veut bien dire que l'on cite quand même le texte originel de la personne qui est citée. Hein.
Absolument. On va faire un dernier exercice, Marie-Christine.
Alors, vous allez dessiner les parenthèses et les crochets là où vous pensez qu'ils sont écrits. Alors, je vous lis. « Maman est allée au marché avec Geronima. Elle a acheté de l'épicerie pour faire un gâteau. De la farine, du chocolat, du lait, des œufs. » Bon, je reprends. Maman est allée au marché avec Geronima. Elle a acheté de l'épicerie pour faire un gâteau, de la farine, du chocolat, du lait, des œufs.
Alors donc, il y avait 2 crochets, mais la question c'est où étaient placés les crochets?
Alors, ils étaient placés après elle, parce que elle représentait maman.
Donc, la phrase, du coup, s'écrivait « Maman est allée au marché avec Geronima, point. Elle, on ouvre le crochet, maman, on ferme le crochet, a acheté de l'épicerie pour faire un gâteau. »
Et les parenthèses encadraient la liste des ingrédients, de la farine, du chocolat, du lait, des œufs.
Voilà, donc il fallait ouvrir la parenthèse après gâteau et avant de la farine et la fermer après des œufs. On va terminer, Marie-Christine, par les tirets. Alors les enfants, les enfants, votre index trace des petits traits droits, les uns au-dessus des autres, bien alignés sur vos deux joues. Hein, comme si vous vouliez ressembler, vous faire une peinture indienne sur les joues. Hein. C'est un petit peu ça, Marie-Christine?
Oui, absolument.
Alors, comment sont utilisés les tirets, Marie-Christine?
Alors, ils sont utilisés dans une énumération et dans ce cas, on va à la ligne chaque fois. Bon, je vais faire ma liste de courses et je dois acheter du savon, du shampoing, du cirage. Ils sont utilisés aussi dans un dialogue. Ils se mettent devant chaque phrase que disent les personnages d'une pièce de théâtre, d'un roman, chaque fois qu'ils prennent la parole.
Alors donc, si on reprend la première phrase, je dois acheter deux points, on va à la ligne, tiret du savon, virgule, on va à la ligne, tiret du shampoing, virgule, on va encore à la ligne, du cirage, point, et on ferme les guillemets, parce que j'avais oublié de dire qu'il fallait les ouvrir au début. Voilà.
Oui, donc, quand on cite, si c'est moi qui dresse la liste de courses, je ne mets pas de guillemets, mais si je dis Chantal m'a dit, je vais faire les courses, je vais acheter, alors dans ce cas-là, je mets les guillemets.
Voilà. Et pour terminer, Marie-Christine, vous avez sous le coude une petite poésie.
Oui, une poésie de Maurice Carême, un poète d'origine belge, qui a beaucoup écrit de poésie pour les enfants. Ponctuation. Ce n'est pas pour me vanter, disait la virgule. Mais sans mon jeu de pendu, les mots, tels des somnambules, ne feraient que se heurter. C'est possible, dit le point, mais je règne, moi. Et les grandes majuscules se moquent toutes de toi et de ta queue minuscule. Ne soyez pas ridicule, dit le point virgule. On vous voit moins que la trace de fourmi sur une glace. Cessez vos conciliabules, ou tous deux, je vous remplace.
Merci Marie-Christine. Et pour illustrer ces deux leçons, celle de lundi et celle d'aujourd'hui, on écoute un extrait d'une chanson d'Annie Versini qui s'appelle, elle aussi, La ponctuation.
S'il n'y avait pas les deux points, la ponctuation.
Ponctuation d'Annie Versini. On va mettre cette chanson et la poésie de Maurice Carême sur les réseaux sociaux. Cela vous permettra, les enfants, de bien mémoriser tous les signes de ponctuation. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour cette leçon et bon week-end.
Merci, au revoir.
L'ose dire, l'unisson. Les espaces et la hauteur sous plafond. Tu me manques pourtant, tu es là. Tu me manques pourtant, tu es là.
Le bleu du ciel, l'horizon. Les nuages et la hauteur sous plafond. Tu me manques pourtant, tu es là. Tu me manques pourtant, tu es là.
On offre notre amour sans condition, sans condition. On souffle notre amour sans illusion, sans illusion. La ville qui s'endort, les néons, les mensonges et le bruit des glaçons. Tu me manques pourtant, tu es là. Tu me manques pourtant, tu es là. On offre notre amour sans condition, sans condition. On souffle notre amour sans illusion, sans illusion. Thank you. hauteur sous plafond. Tu me manques, pourtant tu es là.
Tu me manques, Vanessa Paradis, Gaëtan Roussel sur RFI. Vous écoutez 7 milliards de voisins, l'école à la radio. C'est l'heure de la récré.
Je me fais une fois. Ben, je vais inventer une histoire.
Il était une fois.
La course du caméléon. Un conte de Jean-Jacques Evdida. Bamal, le facochère, était connu pour être fier et ronchon. Jamais il ne saluait le monde et grognait sans façon. Or, un jour que Kakatar, le caméléon, se prélassait sur l'écorce d'un baobab, il a aperçu Bamal qui furetait dans la terre pour en arracher quelques racines. Et lui a dit « As-tu la paix, grand-père facochère ?» Normalement, Bamal aurait dû répondre comme il se doit, la paix seulement. Mais, ses petits yeux se perdant derrière les replis de sa peau rugueuse, il a craché méchamment
« Qui m'interpelle et me dérange à cette heure ?»
« C'est moi, Kakatar. Je voulais juste te saluer. » Bamal a ricané.
« Et depuis quand les petits rampants qui changent de couleur selon les caprices du temps et des moments osent-ils saluer les princes de la brousse ?»«
Tu te moques ?» a répliqué Kakatar. « Mais en réalité, tu aimerais bien avoir une peau fine et sensible comme la mienne, au lieu du cuir épais qui te sert de manteau. »«
Tu parlerais autrement. Si tu savais que cette peau épaisse me permet de traverser la forêt sans m'écorcher, patauger dans les trous d'eau sans me mouiller, sortir au soleil de midi sans me brûler, courir comme le vent sous la nuit étoilée sans être gelé.
Toi, courir aussi vite que le vent, laisse-moi rire. Tu es tout juste bon à te dandiner. Je cours bien plus vite que toi. Cette fois, Bamal, donnant de furieux coups de tête contre le baobab, a éclaté de rage.
Toi, me battre à la course ! Petit insolent ! Nous allons voir. Veux-tu essayer d'aller jusqu'au pied du tamarinier, là-bas, au bord du marigot ?
D'accord, mais place-toi juste en dessous de cette branche où je me trouve, car je ne voudrais pas être avantagé, ne serait-ce que d'un centimètre, par rapport à toi. Le facochère est venu se placer à l'endroit indiqué, le front haut, le groin relevé, à la manière orgueilleuse dont il avait l'habitude de se tenir à l'époque. Le caméléon a dit « C'est parti !» Seulement, à l'instant où il donnait ce signal de départ, Kakatar s'était laissé doucement choir, sans se faire sentir ni voir, sur le dos du facochère entre les soies hérissées de son cou épais. Et tandis que Bamal s'élançait à toute allure, faisant crisser ses ongles contre le sol, projetant jets de sable, pierres et mottes de terre, saccageant bosquets et buissons, le caméléon s'accrochait et se ratatinait pour éviter les gifles des lianes, les claques des arbustes et la furie du vent. Enfin, Bamal a planté ses pattes dans la terre, juste en dessous du tamarinier, étant certain d'être arrivé le premier. Kakatar a alors lâché prise et, projeté dans les airs, est allé se poser comme une fleur sur la première branche de l'arbre dont il a aussitôt pris la couleur. Le facochère, regardant loin derrière, a beuglé.
« Alors, où es-tu ?» La limace, je t'attends au pied du tamarinier.
Kakatar a répondu en bâillant.
Je suis ici, gros balourd.
juste au-dessus de toi.
Oh. Cela fait longtemps que je suis arrivée, et comme je m'ennuyais, je me suis assoupie. Quand Bamal a entendu ces paroles, il en a été complètement abattu et accablé. Ses épaules se sont affaissées et son groin est venu embrasser la terre.
« Ça alors »
a-t-il murmuré.
« Je n'aurais jamais pensé une chose pareille. »
Il s'en est allé confus et c'est depuis ce temps que les phacochères marchent toujours tête basse, museau au sol, car la honte est lourde à porter. Le caméléon, lui, reste toujours aussi léger et difficile à attraper, car il sait s'adapter partout où il est.
Héloïse Auriat nous a raconté « La course du caméléon » de Jean-Jacques Vdida, publié dans la collection « Contes d'Afrique » aux éditions Didier Jeunesse. Vous pouvez retrouver les contes que vous avez entendus dans l'émission sur le site de RFI et en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Le podcast, c'est 7 milliards de voisins, des contes à écouter.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
On retrouve maintenant la psychopédagogue Joëlle Alarcon. Bonjour Joëlle.
Bonjour Chantal.
Alors chaque année, à peu près à la même période, c'est-à-dire au début de l'été, la même question revient, pour ou contre les devoirs de vacances ?
Eh bien moi je dis pour. Je dis pour, mais attention, pas pour que ça ressemble à l'école, parce que nous sommes bien en vacances. Et alors avec le confinement que nous avons tous connu et cette interruption de la scolarité, on pourrait avoir tendance à se dire « Ouh là là, il va falloir vraiment continuer là, à travailler pendant les vacances pour ne pas perdre pied, pour que mes enfants se souviennent que quand même l'école ça existe, qu'à la rentrée on y retourne. » Alors oui, évidemment, mais l'idée c'est vraiment de se dire « Apprendre, oui, continuer à être dans une dynamique d'apprentissage continu, ok, mais dans l'école de la vie, dans le quotidien, en s'amusant. »
Alors, on s'amuse, mais comment ? Comment est-ce qu'on apprend en s'amusant ?
C'est garder à l'idée, à l'esprit, que finalement, on n'apprend pas qu'à l'école. À l'école, on va développer son intelligence logico-mathématique, son intelligence linguistique, on en avait parlé lors d'une chronique sur les intelligences multiples. On va aussi développer son intelligence sociale, en relation avec les autres. Mais à chaque instant, la vraie vie est une formidable école pour apprendre, pour mettre en application plein de choses, et notamment des choses qui sont apprises en classe. Par exemple, si vous faites une petite excursion quelque part, vous pouvez très bien demander à votre enfant de faire un plan ou de lire la carte. Là, il va travailler son orientation, il va peut-être même réviser un petit peu de géométrie, de géographie.
Donc ça veut dire qu'on oublie le GPS, on coupe le GPS ?
Bah ouais, pourquoi pas ? Ou bien on lui donne le GPS, mais c'est lui qui va marquer la destination, le point de départ, le point d'arrivée, et qui va essayer de décrire, de verbaliser par quel chemin on va passer, etc. Parce qu'on développe tout un tas de facultés en faisant ça. On peut aussi, mais ça se fait régulièrement, impliquer les enfants dans la cuisine en leur demandant de calculer les quantités d'ingrédients dans une recette, transformer les millilitres en centilitres, etc. Ce sont des choses très concrètes qui permettent de continuer à être dans une dynamique d'apprentissage. On peut calculer aussi les litres d'eau utilisés dans la journée, dans l'idée aussi d'avoir une approche peut-être plus économique.
Plus écologique.
Plus écologique aussi, évidemment. On peut aussi demander à calculer la dimension de la maison, de l'appartement ou du jardin. Écrire un journal de vacances aussi, un petit journal de bord. Chaque jour, j'écris ce que j'ai fait dans la journée. Donc, on va continuer à développer ses facultés linguistiques, l'écrit, que l'écrit, c'est quand même quelque chose qui se perd très très vite, notamment entre 6 ans et 12, 13 ans. Si on n'écrit pas tous les jours, on peut vite perdre l'habileté de l'écriture. On peut aider les autres à résoudre des problèmes. Il y a plein de façons au quotidien d'inscrire dans l'école de la vie cette volonté de poursuivre les apprentissages.
Alors vous avez un petit rituel que vous recommandez, un petit rituel en famille tous les soirs.
Oui, tout à fait. Un petit rituel que je recommande aussi dans l'année scolaire, hein, pas uniquement pendant les vacances, mais les vacances sont un bon moment pour le mettre en place. C'est au moment d'un moment partagé, en fait, hein, le repas par exemple, le soir, ben, c'est le « qu'as-tu appris aujourd'hui ?» et c'est valable pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Et bien parce qu'en fait, tous les jours, chaque expérience de vie nous apprend quelque chose. Et l'idée, en le verbalisant, en le formalisant le soir en famille, c'est finalement de le faire exister. Et peut-être qu'au début, il va falloir aller un petit peu chercher, creuser, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et vous pouvez aider vos enfants en leur disant, ben, par exemple, tu sais, tout à l'heure, quand tu allais cueillir tel fruit dans tel arbre, tu te souviens? Maintenant, tu sais reconnaître cet arbre grâce à ses feuilles. Il s'appelle, comme ça. Et comme ça, mettre l'accent sur toutes ces petites choses qui nous paraissent insignifiantes et qui nous montrent au quotidien que l'école, c'est aussi l'école de la vie. Et on peut aussi apprendre de nouvelles choses pendant ces vacances, des choses qui sont moins abordées à l'école, comme les arts plastiques, la nature, la relation aux autres. Et vraiment être convaincu que les devoirs de vacances, ça ne passe pas forcément par les divisions, les multiplications posées sur un cahier, mais par cette faculté à identifier et créer des situations d'apprentissage tout au long de la journée, tout au long de ses vacances.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'abstenir d'acheter les fameux cahiers de vacances ?
Alors, je crois que si ça rassure les parents, vous pouvez les acheter. Mais alors moi, j'ai une astuce qui est quand même beaucoup mieux et en plus moins chère qu'un cahier de vacances, c'est la boîte à questions. J'en avais déjà parlé, mais vraiment, j'insiste sur cet outil qui est très simple à mettre en place et qui est beaucoup plus efficace. Dans un cahier de vacances, finalement, on va refaire, mais avec de la couleur et des petits bonhommes sympas, ce qu'on fait déjà à l'école. Alors que la boîte à questions, c'est poser des questions sur des petits papiers. Par exemple, je vais prendre un petit papier où je vais écrire 4 x 5. Sur un autre papier, je vais écrire quels sont les 5 ou les 6 continents du monde. Sur un autre petit papier, est-ce que c'est la Lune qui tourne autour du Soleil, est-ce que le Soleil tourne autour de la Terre, etc. Plein de questions comme ça sur le programme de l'année. On met tous ces petits papiers dans des boîtes et tous les jours, on va tirer une petite question et on essaye d'y répondre. Et ça, c'est la meilleure façon de réviser.
Mais alors, c'est l'enfant qui écrit les questions ou ce sont les parents qui les écrivent sur les petits papiers ?
Alors, au primaire, on peut les écrire ensemble en reprenant les cahiers, les classeurs, le programme ensemble. Si ça n'a pas déjà été fait dans l'année, parce que, voilà, peut-être que vous avez déjà mis en place des boîtes à questions. Et à partir du collège, à partir de 11-12 ans, l'enfant peut le faire lui-même. Et puis vous, en tant que parent, vous pouvez dedans glisser un petit gage, glisser une petite récompense. T'as gagné une glace, t'as gagné une heure de jeu vidéo supplémentaire. Et rendre comme ça cette boîte à questions ludique. Et ce qui fait que ça marche, c'est qu'on se questionne. Quand on se questionne, on va récupérer les informations. C'est un effort cognitif. Donc, c'est beaucoup plus efficace que n'importe quelle révision.
Alors, vous avez employé le mot ludique. Est-ce que ça veut dire que le jeu, le plaisir sont au cœur des apprentissages ?
Alors, oui, évidemment. Je ne le répéterai jamais assez pour apprendre. Il faut se questionner, mais il faut aussi prendre du plaisir. Et l'humain prend du plaisir dans le jeu. Et alors, il ne faut pas hésiter, hein, en famille à faire des jeux éducatifs. Des jeux où vous aussi, en tant qu'adulte, vous prenez du plaisir. C'est important que vous ne le subissiez pas. Il y a des choses très simples, hein, où on n'a pas besoin d'acheter de matériel, comme le pendu. On va faire deviner des mots. Donc là, on va réviser le français, l'orthographe, le baccalauréat, donc où on va travailler le vocabulaire. On va chercher donc un animal qui commence par B, un prénom qui commence par C, etc. La bataille navale, pour se situer dans l'espace, arriver à lire des coordonnées, hein, H1, A3, etc. Et puis d'autres jeux spécifiques à chaque pays. Il y a plein de jeux liés à des cultures différentes et qui sont très très intéressants d'un point de vue cognitif et éducatif. Il y a aussi le memory, tout simplement. Et ça va faire travailler notre raisonnement, notre mémoire, notre imagination, tout en prenant du plaisir.
Joël, est-ce que je peux vous demander quel est votre jeu de société préféré ?
Le Mastermind. Mastermind, c'est pour retrouver des... C'est un jeu de combinaison de couleurs où l'enfant doit faire des déductions, des hypothèses pour retrouver la bonne combinaison. Et alors ça, ça fait travailler le raisonnement, les hypothèses et l'esprit mathématique. Et je trouve ce jeu formidable.
Et il existe en version de poche, donc c'est très pratique pour partir en vacances. Merci beaucoup Joëlle Alarcon. Je signale à nos auditeurs qu'ils peuvent vous retrouver sur Facebook à l'adresse suivante www.facebook.com/lejardinpédagogiquemontpellier, tout attaché. Vous retrouverez Emmanuelle Bastide de retour de vacances. Vous suivrez avec elle la classe d'Adama Keïta afin de maîtriser le vocabulaire. Nous attendons vos messages, vos suggestions écrits ou audio sur WhatsApp au 33 84 22 71 71. Et vous pouvez réécouter les comptes en podcast et également les chroniques de Didier Akwété ou encore d'Ibrahima Giroud, le psychologue dans l'émission. Je suis ravie d'avoir passé ces deux semaines avec vous. Merci à toute l'équipe qui m'a aidée à préparer l'émission. Cécile Lavolo, Sigrid Azeroual, Romain Dubrac et Nicolas Benita. Continuez à nous envoyer vos messages audio ou écrit sur WhatsApp au 33 84 22 71 71. À très bientôt, bon week-end à tous et portez-vous bien.
Sept milliards de voisins, c'est fini.